Bonsoir. Comme chaque vendredi, avec des confrères journalistes, nous analysons les sujets qui ont fait l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir un dossier sur la situation sécuritaire au Nord Kivu. Et dans notre deuxième thème, c'est la question du verdict rendu par la Cour pénale internationale dans le procès Thomas Lubanga. 14 ans de prison pour les crimes commis en Ituri par cet ancien chef de milice. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat J.R. Mokolo, journaliste et rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir J.R.
Bonsoir Kelly.
Harold Bellarmé Badibanga, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Harold.
Bonsoir Kelly.
Et Jean-Luc de la Dignité Issakanda, rédacteur en chef à la radio Ntemo, émettant depuis Banzangungu au Bakongo. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir.
Merci de nous suivre dans toutes les provinces et la RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans les vifs de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé et traité les sujets que nous avons retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Berry Loutchaka.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la situation sécuritaire à l'est de la RDC. La prospérité signe le débat sur la guerre à l'est. Rendez-vous manqué au Sénat. Trois représentants du gouvernement, Matata, étaient en effet attendus hier au Sénat, rapporte la Consoeur, mais aucun n'a répondu présent à l'invitation des sénateurs, deux d'entre eux étant en mission à Addis Abeba, en chérie la prospérité. Pendant ce temps, le potentiel renseigne qu'on Kivu à cause de la guerre. On enregistre déjà 2 millions de déplacés et s'en est trop, martèle le confrère. CIRGL, les États membres condamnent les actions du M23. C'est un article que signe l'Observateur. Par ailleurs, le même quotidien trouve que l'exploitation du pétrole au Kivu est une raison de plus pour intensifier les conflits armés. Et de son côté, Forum des As explique qu'à la suite des dérapages observés lors des manifestations de rue à travers le pays, le gouvernement rassure les Tutsis. Tout en espérant que la guerre cesse à l'est, les Tutsis de Kinshasa ne souhaitent pas que la victoire soit militaire. Pour le potentiel, gestion transfrontalière des ressources naturelles, guerre dans l'Est, Crisis Group se trompe d'analyse. Partant des prémices vraisemblables, explique le contraire, International Crisis Group est arrivé à la conclusion que la résolution de la crise dans l'Est passe par la gestion commune des ressources transfrontalières. Erreur d'analyse estime le potentiel, dans la mesure où cela revient à attiser davantage les convoitises des pays voisins et autres prédateurs qui tournoient autour de la RDC et n'arrêtent de tenter de la balkaniser, conclut le journal. Dans un tout autre chapitre, l'Observateur informe que Thomas Lubanga écope de 14 ans de prison à la CPI et la tempête des tropiques d'enchaîner. Après sa condamnation à 14 ans de prison de réclusion par la CPI, Thomas Lubanga risque de passer encore 8 ans en prison. L'Avenir souligne de son côté que le malheur est tombé sur Thomas Lubanga Diilo 6 ans après son incarcération à La Haye. Cette première condamnation de la CPI lui incombe après avoir commis des crimes très graves.
Merci Berry Loutchaka pour cette revue de presse J.R. Mokolo. Autre sujet qui a fait l'actualité pendant la semaine, c'est la publication des résultats des examens d'État. En moins d'un mois, on a eu les résultats. Il faut féliciter le ministre de l'enseignement primaire et secondaire.
Bon, il est à féliciter parce que depuis un bout de temps, ce qu'on attendait un peu très longtemps avant qu'on publie ces résultats, c'était juste après la rentrée scolaire et les élèves qui n'avaient pas réussi, ils ne pouvaient pas en tout cas aller à l'université, mais là, ça leur permet. Mais je veux seulement noter que cela apparaît comme étant de la propagande. On a voulu vraiment montrer que voilà, on a fait mieux, or que la publication des résultats ne doit pas être un objet de communication pour le gouvernement. Et ce que je n'ai pas apprécié personnellement, c'est beaucoup de dérapages, beaucoup de dépravations de mœurs. Moi, je pense qu'il va falloir que nos parents arrivent quand même à encadrer leurs enfants. Mais on salue quand même le fait que ça a été fait à temps. Mais il va falloir vraiment qu'on s'assure que les résultats publiés via un réseau de communication sont des résultats fiables pour que demain, on ne se rende pas compte quand on va peut-être publier le palmarès, on se rend compte qu'il y a des résultats qui ne sont pas confirmés par le palmarès.
Merci J.R. Mokolo, Harold Bellarmé Badibanga, propagande du ministre de l'enseignement primaire et secondaire.
Non, non,
pas de propagande, bien au contraire, au-delà du fait que nous saluons l'action jusque-là entreprise par Makeya Mongo depuis qu'il a accédé à la tête de ce ministère. Et quand on gouverne, on est dans l'obligatorieté de rendre compte. Lorsqu'on arrive à publier les résultats de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs en tant que ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, on est obligé de rendre compte pour dire voilà ce qui ne se faisait pas il y a autant d'années, aujourd'hui c'est effectif. On doit voir ça dans un bon angle étant donné que l'on n'est pas contraint de se taire lorsque l'on travaille.
Alors, avant de l'armée Badi Banga, il y a une autre actualité, c'est le 10 ans du code minier depuis sa mise en application. Pour le ministre Kabeloulou, il y a encore des réformes à faire dans le secteur minier.
Madame, le problème de notre législation de manière générale au Congo et même en Afrique, c'est que c'est du plagiat. On prend généralement des textes qui ont été mis sur pied en Europe ou sous d'autres cieux, on les amène au Congo sans les adapter aux réalités que nous avons ici au Congo. C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais lorsqu'une loi est prise ou a été faite, il faut qu'elle tienne vraiment compte des réalités. C'est vrai que depuis que le code minier a été mis en fonction en République démocratique du Congo, il y a une part d'efficacité. Mais tout ce qu'on peut déplorer aujourd'hui est dû d'abord au fait que beaucoup des réalités contenues dans ce code ne cadrent pas avec des réalités sur place et même avec le fonctionnement des entreprises minières en République démocratique du Congo. Ça, c'est de l'un et de deux. Le mode d'applicabilité n'est pas efficace parce qu'il n'y a pas une coercition assortie de certaines sanctions contre les entreprises qui peuvent se comporter en récalcitrant.
Merci Harold Bellarmé, Badi Banga, Jean-Luc de la Dignité. Vous intervenez depuis Banjangungu dans la province du Bas-Congo. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui au Bas-Congo?
L'actualité aujourd'hui au Bas-Congo, c'est effectivement le point de presse suivi par le gouverneur de la province du Bas-Congo à sa résidence hier soir. Et le gouverneur, effectivement, a essayé de rassembler tous les journalistes pour faire le point de ses activités. Il a été très éloquent et très à l'aise de répondre aux questions des journalistes. Il a parlé de la politique, il a parlé de l'économie, il a parlé de la santé, de l'éducation, de la culture. Donc voilà un peu l'information dont va courir.
Merci Jean-Luc de la Dignité Issakanda. Premier thème de ce soir, situation sécuritaire au Nord Kivu. Le gouvernement congolais décrète la mobilisation de l'ensemble du peuple congolais pour faire échec à la nouvelle tentative de déstabilisation du pays. C'est l'une des résolutions du Conseil des ministres extraordinaire conduit par le Premier ministre Augustin Matata Mponyo. Conseil tenu samedi 7 juillet 2012 à Kinshasa. Le condensé de ce compte-rendu du Conseil des ministres extraordinaire avec Boubéry Franklin.
C'est le ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications qui a lu le compte-rendu du gouvernement axé sur la situation qui prévaut dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Sans aller du dos de la cuillère, Kim Kiemulumba affirme que ce qui se passe depuis jeudi dans cette partie du pays contredit les affirmations du ministre rwandais des Affaires étrangères, affirmations selon lesquelles il s'agirait d'un problème de gouvernance interne de la RDC, d'où cette décision du gouvernement.
Le gouvernement décrète la mobilisation de l'ensemble du peuple congolais pour faire échec à cette nouvelle tentative de déstabilisation du pays, doublé d'atteinte à l'intégrité du territoire national.
Dans ce même compte-rendu, le gouvernement remercie la communauté internationale d'avoir clairement dénoncé à travers le groupe d'experts des Nations Unies l'implication étrangère dans la déstabilisation de l'Est de la RDC.
Le gouvernement de la République demande au Conseil de sécurité de tirer toutes les conséquences qui s'imposent à l'endroit de tous ceux qui ont ainsi violé ces résolutions pertinentes mettant à mal la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac et en dehors à nouveau le Nord Kivu.
D'après le compte-rendu de ce Conseil des ministres, le gouvernement remercie aussi la MONUSCO pour son appui à lutter contre les rebelles.
La conférence épiscopale nationale du Congo aborde aussi dans le même sens. Elle exprime sa profonde consternation sur la guerre qui sévit encore dans le nord et sud Kivu. Dans une conférence de presse tenue lundi dernier au centre interdiocésain, le secrétaire général de la CENCO appelle le peuple congolais au sursaut populaire pour sauver la patrie en danger. Il annonce des actions de grande envergure à travers toutes les paroisses du pays. Alors, dans ce dossier consacré à la situation sécuritaire au nord Kivu, on va évoquer plusieurs aspects, entre autres l'appel du gouvernement à la mobilisation, la situation humanitaire, le changement à la tête de la 8e région militaire, l'appel du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ainsi que la réunion d'Addis Abeba. On va commencer par cet appel à la mobilisation du gouvernement congolais. Harold de l'armée Badibanga, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir. Comment vous avez analysé cet appel du gouvernement?
L'appel du gouvernement est salutaire. L'appel du gouvernement est salutaire, c'est lié dans la mesure où la République démocratique du Congo, c'est un tout. Depuis que la guerre a commencé à l'est de la République démocratique du Congo, il faut que chaque Congolais arrive à comprendre que le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo est en marche. Et la meilleure façon de faire échec à ce plan, c'est que chaque Congolais arrive à faire part de sa volonté à ne pas voir ce plan se matérialiser. C'est quand même inconcevable et pas normal qu'au moment où les compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo sont sous les coups des canons et des bottes, nos soeurs et nos mères sont violées, les chefs de la République démocratique du Congo sont pillés vers le Rwanda, et qu'à Kinshasa, dans certains coins de la République, que l'on ne voit rien sur les visages des gens ou dans le langage des gens qui présagent une certaine préoccupation vers l'est de la République démocratique du Congo. Donc, la mobilisation telle que voulue par le gouvernement, moi, en tant que journaliste congolais, ne peux que m'enchanter. Mais je ne veux pas que cette mobilisation se limite là. Je voudrais que le renforcement des capacités des FRDC au front soit effectif, parce que sans ce renforcement, sans cette dextérité dans la gestion de tous les mouvements et de toutes les opérations que font les FRDC à l'est de la République démocratique du Congo, la mobilisation dans toutes les villes ne peut pas être efficace, mais elle est un peu efficace au regard de la communauté internationale qui doit se sentir interpellée parce qu'elle-même étant de loin ou de près impliquée dans ce qui se passe à l'est de la RDC, doit arriver à comprendre que le Congolais ne partage pas le même point de vue qu'elle.
Pierre Mokolo, vous êtes journaliste et rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui est née depuis Kinshasa. Quel sens vous donnez à la mobilisation populaire?
Bon, je voudrais, comme Harold l'a dit, qu'il est tout à fait normal qu'on puisse quand même mobiliser la population. Et moi, je dirais mobilisation, c'est un mot. C'est pas un mot, c'est un comportement. Et il suffit pas seulement de tenir un discours mobilisateur, mais que dans la pratique, par exemple, vous puissiez poser des actes qui font que les Congolais ne puissent pas se mobiliser. Et je voudrais en tout cas m'expliquer en disant que on sent comme si il y a une gestion partisane de l'État. Il y a les uns qui gouvernent contre les autres, or en devant en principe gouverner les uns avec les autres. Et la guerre qui se passe à l'Est est perçue comme, par certains, comme étant une guerre contre un régime. Or, en principe, c'est pas une guerre contre un régime, mais une guerre contre notre pays, la RDC, et que tous les Congolais doivent se sentir en tout cas mobilisés, concernés par ces projets machiavéliques de balkanisation. Vous l'avez même dit à travers la déclaration des évêques de l'Église catholique. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que tout le monde ne se sent pas concerné? Les élections, par exemple, ont divisé la société congolaise puisque elles n'ont réussi en tout cas à colmater les brèches. Et c'est cela qui fait, par exemple, que quelqu'un qui dit si, bon, moi je suis tchisekédiste, on m'a volé, par exemple, entre guillemets, ma victoire, je ne suis pas concerné par cette guerre-là.
Mais c'est quand même un problème national.
Tout à fait, c'est un problème national, c'est vrai, mais tout n'est pas le même de la perception des gens. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi, ça me rappelle aussi ce qui s'est passé, même en 87-97, quand l'Afdel arrivait, les gouvernements Mobutu, avec tous ses ministres et tout ça, et ses partisans disaient que nous étions agressés. Mais ceux qui venaient avec l'Afdel, avec le Rwandais notamment, les étrangers qui étaient en train de vivre les Rwandais, les familles disaient que non, c'est une rébellion. Donc les Congolais, à un certain moment, ont permis à ce que des étrangers puissent transformer une agression en une rébellion. Nous l'avons vu aussi en 98 quand les RCD a déclenché sa guerre ici à Kinshasa, par exemple. On a vu aussi une mobilisation et même un discours haineux à cette époque où on a vécu à Kinshasa, un véritable pogrom, des attaques contre les ressortissants d'une communauté. Aujourd'hui, cette mobilisation semble être mal perçue par certaines personnes, parce que nous l'avons vécu à Goma, où il y a eu des attaques contre certaines personnes d'une certaine communauté.
Le ministre de l'Intérieur a essayé de mettre les poings sous les yeux en disant
même au cours de la dernière, par exemple, le dernier meeting du PPRD à la Fikine, il y a même un ADG qui a été suspendu pour avoir diffusé des propos haineux. Donc moi, je pense que pour que cette mobilisation puisse réussir, il faut que ceux qui gèrent le pays dans leur comportement ne posent pas des actes qui font que d'autres personnes se sentent lésées, ont des frustrations. Et quand il faut mobiliser, ces gens, ils estiment ne pas être concernés parce qu'ils estiment, par exemple, que c'est une guerre contre un régime. Or, c'est pas une guerre contre un régime, c'est une guerre contre le Congo dans son ensemble. Il va falloir que nous puissions nous battre. Comme l'a dit Harold Benjamin Badibanga, la mobilisation seule ne suffit pas. Il faut que sur le plan militaire, nous puissions aussi avoir des capacités qui font que nos voisins puissent encore nous respecter. Je me rappelle à une certaine époque, le Congo, les Zaïres, n'ont jamais été aussi faibles comme maintenant. Nous faisons même des expéditions dans d'autres pays pour pouvoir peut-être remettre de l'ordre. Mais aujourd'hui, là, nous, les centres qui devions contrôler la périphérie, nous sommes maintenant incapables de pouvoir contrôler la périphérie. C'est la périphérie qui nous contrôle. C'est déplorable.
Jean-Luc de la Dignité Isakanda, rédacteur en chef à la radio Ntemo, et le temps depuis Banjangungu au Bas-Congo. Cet appel du gouvernement à la mobilisation est un aveu d'impuissance.
Oui, merci beaucoup à tous les confrères qui viennent d'intervenir pour cette question. Que la République démocratique du Congo, à mon sens, je le prends, je le considère comme un corps, comme le corps humain qui a ses membres inférieurs et supérieurs, qui a tout le contenu du corps humain. Aujourd'hui, l'Est est comme une partie du corps de la République démocratique du Congo qui est malade. Et par rapport à cet état de santé de la République démocratique du Congo, moi je ne trouve pas pourquoi les gens doivent se diviser. Et plutôt que, avec la peine du gouvernement, moi je sens le sens de responsabilité du gouvernement qui appelle la conscience du Congolais de s'unir afin de trouver solution ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un corps malade. Si le corps est malade, si c'est un être qui est malade qu'on peut considérer comme étant un membre du corps de la République démocratique du Congo qui est malade, mais la bouche ne peut pas se diviser à son membre intérieur. Et la bouche qui a le droit d'avaler les médicaments pour donner soin à ce membre-là, j'espère que tous ensemble, nous devons nous unir en un seul homme pour pouvoir trouver des solutions. Parce que moi, jusque-là, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas aussi admirer que les viols soient réalisés, le pillage du sous-sol congolais. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette richesse. Mais cette richesse qui s'en va comme ça parce qu'il y a la guerre. Et puis, aujourd'hui, tout Congolais, nous devons nous dire qu'on est malade. Et pour que nous trouvions une solution, nous devons être unis. Il n'y a pas, lorsqu'il s'agit d'un état malade, d'une personne malade, on ne voit plus dans la famille les problèmes, les à côté des relations entre les gens. Mais l'idéal, c'est de trouver une solution afin que cette maladie soit guérie.
À Paul Bellarmé, Badibanga, il y a eu franchement la tête de la 8e genre militaire. Est-ce que cela signifie que celui qui était là avant, donc le général Mayala, n'a pas été efficace pour mener ses opérations?
Non, je ne crois pas que c'est parce que celui qui était à la tête de cette région militaire était inefficace, parce que s'il l'était, la guerre et serait allé outre-appétit jusqu'à arriver à Kinshasa, jusqu'à ce jour. Mais je suppose tout simplement que cela rentre dans des prérogatives régaliennes d'un gouvernement d'un état-major destiné à un certain moment que pour arriver à l'efficacité, il faut faire un ménage au sein de nos troupes pour plus d'efficacité. Et peut-être que celui qui a été là pourra être envoyé ailleurs pour arriver à pour lui permettre plutôt de donner son expertise au FRDC dans un autre rayon. Et donc, je pense que l'heure étant grave, que le péril étant en la demeure, tout ce qui peut être fait, c'est à mettre à l'actif de ceux qui pensent que dans des situations dangereuses, il faut aussi utiliser des mesures efficaces.
Alors, entre-temps, la situation sécuritaire, la situation plutôt humanitaire reste préoccupante avec les déplacements des milliers des Congolais vers l'Ouganda. À ce sujet, il s'est même tenu une réunion à Addis Abeba où les pays se sont convenus de mettre en place une force régionale afin de sécuriser les frontières. Est-ce que c'est une solution pour mettre fin à ce genre de conflits?
C'est de la distraction, madame. De la distraction, nous devons dire aux Congolais la vérité. La guerre que nous vivons dans les Grands Lacs, et plus particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, est boutiquée de quelque part. Boutiquée de quelque part, et moi, journaliste congolais de mon État, je ne mets pas dedans, je pointe la communauté internationale, et plus particulièrement les puissances internationales comme les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne. Vous savez, madame, que lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies n'arrive jamais à voter une décision pour permettre à la MONUSCO, l'ex-MONUC, d'utiliser les chapitres 7, il se pose un problème. Le président Barack Obama, lorsqu'il était encore sénateur, il avait élaboré un projet pour la délocalisation d'FDLR en dehors de la République démocratique du Congo. Qu'a-t-il fait de ce projet lorsqu'il est une fois arrivé à la Maison Blanche? Rien du tout. Aujourd'hui, nous journalistes, nous ne mettons jamais de côté les rumeurs. Nous prenons aussi les rumeurs en considération. On cite bien Madame Clinton comme étant à la base de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi n'a-t-elle jamais été interpellée?
Vous dites bien que ce sont des rumeurs. Il n'y a pas de preuve qu'elle est impliquée dans tout ce qui se passe à l'est.
Il n'y a pas de preuve, mais le journaliste sait tout, mais il ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé, ici, à la radio. Nous disons tout simplement qu'on peut aller de réunion en réunion, et vous le savez, autant mieux que moi, que depuis que le conflit a commencé à l'est de la République démocratique du Congo, nous n'avons fait qu'assister à des réunions qui n'ont fait qu'accoucher des chauves-souris.
Donc, cette recommandation ne servira à rien.
Ça ne sert à rien du moment qu'il n'y a pas une force coercitive internationale qui peut obligatoirement demander au Rwanda de partir. Au lieu de continuer à dialoguer au niveau de la sous-région, il faut engager un dialogue franc et direct avec ceux qui attisent le feu dans les Grands Lacs.
J.R. Mokolo, parlant du dialogue, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, appelle Kinshasa et Kigali à pouvoir dialoguer pour mettre fin à cette réunion.
Bon, personnellement, j'estime que le Congo et le Rwanda ont suffisamment dialogué. Je sais que Kabila chef de l'État de la RDC, Paul Kagame, celui du Rwanda ont suffisamment dialogué. Et ce dialogue a abouti souvent à la signature des contrats, des accords, qui font par exemple que le Congo soit obligé au nom de la paix d'accepter des gens qui faisaient partie de la rébellion ou des groupes armés qui entrent comme ça sans contrôle. On ne connaît pas leurs identités, on ne connaît pas leurs cursus. Et cela a abouti à pratiquement la présence du cheval de Troie dans notre pays, a constitué pratiquement une cinquième colonne d'infiltration de notre armée. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce schéma parce qu'on a suffisamment dialogué.
Mais qu'est-ce qu'il faut?
Bon, le gouvernement, par exemple, a dit qu'il ne dialoguera jamais avec le M23. Il est impossible aussi que le gouvernement dialogue avec le FDLR. Et les dialogues entre Paul Kagame et Kabila, je ne sais pas, ça aura quel objet passé. Paul Kagame dit n'être impliqué ni de loin ni de près dans ce qui se passe à l'est du pays, qui serait une guerre congolo-congolaise. Quelqu'un qui n'est pas impliqué, vous allez parler avec lui, pour quelle raison? Donc la meilleure façon de pouvoir procéder, c'est faire en sorte que nous puissions en tout cas renforcer les capacités de nos forces armées. Faire en sorte que nous ayons une armée qui soit même en tout cas de pouvoir nettoyer cette zone-là de tous les groupes armés, pas seulement des M23. Et comme on ne peut pas aujourd'hui seul faire ce travail-là, il y a la MONUSCO qui nous appuie aujourd'hui. On a suivi, par exemple, qu'à Goma, la MONUSCO, côte à côte avec le FARDC, on sont en train de mener des actions pour pouvoir en tout cas mettre en déroute les M23. Et il faut, comme l'a dit par exemple le CIC, le CIRGL, il faut constituer une force internationale, mettre, pas une force qui serait constituée de nos voisins comme le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi.
Pourquoi pas, parce qu'ils sont membres de,
du CIC. Non, parce ils sont en fait le problème. Ils sont à l'origine du problème. Parce que si on intègre leurs forces, comme l'a dit par exemple la ministre des Affaires étrangères, M. Kouba Boké, à l'est du pays, on a du mal à distinguer les soldats congolais et les soldats rwandais. Ils sont d'office exclus. Il faut chercher peut-être des troupes de la région, même qui n'appartiendraient pas à ces trois pays-là, pour éviter que demain on nous amène encore des militaires qui intègrent notre armée. Et on dit, voilà, ils sont congolais, aujourd'hui on découvre par exemple que Makenga ne s'appelle pas Makenga, il a un autre nom, donc c'est un peu dangereux. Donc, je vais me résumer pour dire qu'on a suffisamment dialogué, ce dialogue a abouti à la constitution d'une cinquième colonne d'infiltration dans notre pays. Il faut que la MONUSCO, sous le chapitre 7, nous aide efficacement pour faire en sorte que la sécurité soit rétablie, parce que les populations pour lesquelles la MONUSCO est là pour sécuriser ont besoin de la paix. Parce que depuis pratiquement 96 jusqu'à maintenant, la population de l'Est du pays n'a jamais, en tout cas, allumé l'ère de la paix. C'est la guerre qui continue depuis 96 jusqu'à maintenant.
Jean-Luc Issa Kanda, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de la réunion d'Addis Abeba qui propose la mise en place d'une force régionale pour sécuriser les frontières?
Ok, merci beaucoup. J'espère que la proposition, elle est bonne. Car en fait, les États d'Afrique ont des relations internationales. C'est tout à fait normal qu'au niveau d'Addis Abeba, qu'on puisse prendre cette décision de négocier. Mais moi, je reviens toujours au négocier. Pourquoi négocier? Aujourd'hui, nous le savons que rien ne peut se faire dans ce monde sans que la communauté internationale ne s'implique pas. Si réellement la communauté internationale pouvait tenir ses objectifs de la paix à travers le monde, est-ce qu'il devait y avoir guerre au niveau de l'Est? Non. Et les négociations, mais dans les négociations, lorsque j'ai entendu Alain le dire, que Kagame, Kagame dit, il est de près ni de loin de cette guerre. Négocier maintenant avec quoi? Sur quelle base? D'une personne qui refuse? Non. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le Congo doit pouvoir se mettre en soi pour donner une fois de plus du tonus à l'armée congolaise. La réforme de l'armée. La réforme de l'armée, il faut tenir compte de ça. Parce qu'aujourd'hui, pour faire face à ces groupes des milices aujourd'hui, qui semble mettre en difficulté la santé de l'état de la RDC, il faut qu'effectivement le renforcement de capacité des militaires, de l'armée, soit une urgence au niveau des autorités. Parce que si l'armée est très forte, les professionnels des armes face à tous ces problèmes-là, nous devons nous dire que des solutions militaires pourra aussi amener à la paix. Moi, je veux que dialogue soit, oui, dialoguer pour quelle base? Pendant que le Congo est en train d'en souffrir, la communauté internationale observe, nous demande de négocier avec les pays frères, et pendant que ces pays frères sont en train d'encourager le M23. Je trouve que c'est absurde.
Merci Jean-Luc Issa Kanda. Deuxième thème de ce soir, la Cour pénale internationale a rendu le verdict mardi dernier dans l'affaire Thomas Lubanga. Cet ancien chef de milice congolais est reconnu coupable des crimes de guerre commis en Ituri. Il est condamné à 14 ans de prison par la CPI. Il s'agit d'une première condamnation de la Cour pénale internationale depuis sa création, suivant les explications de Paul Madidi, chargé de communication de la CPI à Kinshasa.
De cette peine, il faut déduire les années de détention qu'il a déjà accomplie à la Cour pénale internationale. Monsieur Thomas Lubanga avait été remis à la Cour depuis le 16 mars 2006, donc c'est 6 ans. Et certes, le procureur a demandé 30 ans, mais les juges, dans leur indépendance, en prenant en compte non seulement les éléments de preuve de la part du procureur, mais également les éléments qu'ont présentés les avocats de Monsieur Thomas Lubanga, ils ont notamment pris en compte le degré de participation de M. Thomas Lubanga, le degré d'intention, les circonstances de temps, etc. Ils en ont tiré la conclusion que 14 ans étaient suffisants pour M. Thomas Lubanga.
Le gouvernement congolais se félicite de la condamnation de Thomas Lubanga par la Cour pénale internationale. Pour le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, la condamnation de Thomas Lubanga est une satisfaction dans la mesure où elle peut dissuader les autres belligérants qui commettent des crimes dans l'est de la RDC. Lambert Mende regrette tout de même le fait que Thomas Lubanga n'a pas été jugé sur tous les crimes commis sous son commandement. J.R. Mokolo, je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef à Canal Congo Télévision. Comment vous avez analysé ou comment vous avez accueilli ce verdict rendu par la CPI?
Bon, personnellement, j'étais surpris par le nombre d'années de condamnation. Le procureur avait requis 30 ans. Je me disais peut-être qu'on allait suivre le procureur ou peut-être vous donner 25 ans ou 20 ans. Ben, comme c'est 14 ans, nous devons respecter en tout cas la décision prise par les juges qui sont indépendants, et je l'espère. Mais je regrette aussi le fait que Ntaganda ne soit pas là aussi pour pouvoir être sanctionné, quoi, s'il a commis des crimes aux côtés de Thomas Lubanga. Mais le gouvernement, je dis, qui est en train de prendre acte de ces verdicts et regrette même qu'on ne l'ait pas condamné pour d'autres crimes. C'est le même gouvernement, par exemple, qui sélectionne des gens à pouvoir transférer à la CPI. Le gouvernement a pris acte, pardon, de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, mais on a vu comment le gouvernement a protégé Bosco Ntaganda, qui a été présenté comme étant, c'est pas une pièce maîtresse pour la paix. À l'est du pays, on n'a jamais vu cette paix-là. Aujourd'hui, Bosco Ntaganda est pratiquement en train de perturber encore davantage cette paix-là. Oui, degré d'intention, degré de participation, ça démontre que ce ne sont pas seulement les arguments du procureur qui comptent, mais c'est les arguments aussi des avocats qui comptent aussi. Je voudrais aussi regretter le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a Paul Kagame, qui est reconnu par la communauté internationale sur base d'un rapport des Nations Unies qui soutient des mouvements armés qui fait mort et désolation à l'est du pays. Et je voudrais aussi voir la CPI, mais pas se concentrer seulement sur les Congolais, faire en sorte que, par exemple, on ficelle un dossier, comme on l'a fait avec Charles Taylor, pour que les autorités rwandaises aussi puissent, payer pour ceux qui sont en train de faire comme travail négatif en termes de destruction, en termes de tuerie, en termes de massacre au Congo. Et ça donnerait l'impression qu'on a vraiment à faire une justice véritablement internationale qui s'intéresse pas seulement aux Congolais, parce que les Congolais sont...
Parce que vous avez l'impression qu'elle s'intéresse seulement aux Congolais, la Cour pénale.
Oui, parce qu'à part Laurent Gbagbo, il n'y a que des Congolais, et on voit aussi sous d'autres cieux, il y a beaucoup, beaucoup de crimes qui ont été commis. Il faut que la CPI s'internationalise, parce que c'est une Cour pénale internationale, il ne faut pas qu'elle soit localisée seulement en Afrique.
Parole de Bellarmé Badibangabou, vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RCGA. Est-ce qu'on peut parler des défaites pour l'ancien procureur de la CPI, lui qui avait demandé 30 ans de prison pour Thomas Lubanga?
Merci, Félix. Je voudrais d'abord préciser que le gouvernement de la République ne sélectionne pas les gens envoyés à la Cour pénale internationale. Le modus vivendi, le modus operandi plutôt de la CPI, c'est qu'elle est invitée par un gouvernement ou le Conseil de sécurité des Nations Unies qui décide que le procureur de la CPI diligente une enquête. Et c'est lorsque cette enquête est menée qu'elle en arrive au regard des enquêtes et des témoignages sur place de nous dire telle ou telle autre personne est approximativement trempée dans telle ou telle autre crime. Donc, ce n'est pas bon de préciser que c'est le gouvernement qui est
trompé. Et Bosco Ntaganda?
Bosco Ntaganda, il s'agit pour un gouvernement de la République d'apprécier entre la justice pour la justice et la paix. Et là, tout homme moyen mis dans les mêmes conditions que le gouvernant de la République aurait épargné les vies des Congolais par rapport au transfert d'un individu à la CPI.
Mais aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a épargné les vies des Congolais?
Mais lorsque nous établissons la comparaison par rapport au temps,
nous nous rendons compte qu'à l'époque, le gouvernement a eu mieux à faire pour préserver la vie des Congolais. Mais comme en prenant une décision, on n'est pas prophète pour scruter le bon sens de la personne que l'on peut protéger par rapport à sa bonne foi, l'ennemi est resté l'ennemi. Mais en son temps, cette décision a été salutaire, si bien que ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la RDC n'est encouragé par personne.
Et donc, Bosco Ntaganda, sa place à la CPI aujourd'hui?
Sa place, comme tout autre criminel, doit être transféré à la CPI, mais c'est pas un problème. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent que nous ne pouvons qu'être à la CPI. Tout un État, étant donné que dans le rouage de la justice internationale, la CPI est subsidiaire à un tribunal interne. Et donc, moi, je pense que le renforcement de la justice interne épargnerait le transfert des Congolais au niveau des juridictions internationales. Par exemple, lorsque nous pensons que même pour de petites infractions que la justice congolaise peut connaître elle-même, il faut transférer les gens à ces pays. Et je risque de donner raison à ceux qui pensent que la Cour pénale internationale, c'est une juridiction sous l'emprise de l'impérialisme. Pour répondre à votre question.
Rapidement, là, plus beaucoup de temps.
Oui, je ne dis pas que c'est une victoire pour le procureur de la CPI, mais je dis plutôt que c'est une victoire de la justice, étant donné que ce qui s'est passé, le décalage entre ce qui a été demandé comme peine par le procureur de la République et ce qui a été prononcé comme peine, rentre dans le fonctionnement normal de la justice, étant donné que les juges sont indépendants et par rapport au procureur, et par rapport à la défense, et par rapport même à ceux qui viennent faire leur déposition par devant le tribunal.
Merci Harold Bellarmé Mbadi Banga, Jean-Luc de la Dignité Issa Kanda. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la radio Ntemo et mettant depuis Mbanzangungu au Bakongo. 14 ans de prison pour Thomas Lubanga, suffisant ou pas suffisant?
Ben, moi, je trouve que les 14 ans, pour moi, c'est très insuffisant parce que, Kili, tu peux comprendre, si tu as vécu la guerre, tu comprendras cette douleur des atrocités commises par le groupe de Thomas Lubanga. Et 14 ans aujourd'hui, je trouve comme si c'était deux jours qu'on lui a donné. Il s'agissait en principe de respecter les années proposées par le procureur
l'ancien procureur Moreno Ocampo.
Oui, fallait en principe respecter les propositions d'Ocampo. Parce que aujourd'hui, si chacun de nous peut se dire qu'il y a victoire de la justice, moi je dis ben c'est une victoire partielle. Partielle parce que beaucoup des milices, de ces dirigeants des milices à l'Est continuent aujourd'hui à errer et à régner encore en plus fort, comme si nous étions encore dans une forêt où tout pouvait être accepté. Et je pense que dire aujourd'hui que les 14 ans qu'on a infligé à Thomas Lubanga, c'est beaucoup, moi je me dis que c'est pas beaucoup. Et poser cette question à ceux qui sont victimes de réactions négatives de Thomas Lubanga, vous allez comprendre que même les 30 ans proposés par Opposé, c'est tellement peu. Moi, excusez-moi que je sois un peu dur là-dessus, parce que moi j'aime toujours que la paix puisse régner aujourd'hui jusqu'à jamais. Mais lorsque les personnes animées d'une mauvaise conscience prennent l'âme et tuer le prochain, non, écoutez, j'espère qu'aujourd'hui nous devons nous dire la justice, c'est vrai, il a fait son travail, bravo, mais il y a un grand travail à faire. Je le dis encore que s'il y a 100% du travail, aujourd'hui la justice lui reste au moins 90% à faire. Donc une grosse partie du travail lui est encore attribué de veiller de plus en plus, de revoir encore toutes les techniques, comment mettre la main à tous ces brigands qui croient aujourd'hui pour l'arme tuer l'autrui. tuer son prochain, c'est une raison de soutenir ses opinions. Moi, je suis désolé. Je pense que les 14 ans, c'est même fait.
Merci, Jean-Luc de la Dignité Sakanda, J.R. Mokolo. Vous vouliez que je vous donne la parole pendant que Arnold Bellarmine parlait. Rapidement.
Je voudrais seulement préciser, contrairement à Bellarmine Badibanga, que Cusco Taganda nous a jamais apporté la paix, et la paix pour tout un pays, pour une région, ne dépend pas d'une personne. C'est une conjonction en tout cas de beaucoup de facteurs. Et on dit que c'est paix pour Thomas Lubanga, je me dis, les juges ont estimé, en vertu de tout ce qu'ils ont écouté comme version, comme ce que les défenseurs ont dit, moi je pense que c'est suffisant. Mais il ne faut pas qu'on considère Thomas Lubanga comme étant un rat de laboratoire. Il faut expérimenter la justice internationale sur lui, même si ce qu'il a, sa participation à la commission des faits n'est pas suffisamment avérée ou le degré de participation d'intention n'est pas assez grand. Il faut le condamner pour donner l'exemple. Parce que moi, j'ai l'impression que l'impact de cette condamnation-là sur les autres chefs groupes armés n'est pas visible, parce que si les gens pouvaient craindre ce qui est arrivé par Bachar Taylor, on n'allait pas voir en Syrie le président Bachar en train de s'entêter et continuer à massacrer les gens. J'ai comme l'impression que les dictateurs, les sanguinaires, ils n'ont pas de tête, ils ne font pas.
Merci Pierre, merci beaucoup. Merci, un mot à
l'intention de hier, je dis que Thomas Lubanga n'est pas poursuivi pour toutes les exactions. On l'a poursuivi devant la Cour pénale internationale seulement pour avoir enrôlé des mineurs. Par rapport au cas de Cusco Taganda, devant la paix, on peut faire n'importe quelle concession. Il nous a donné la paix par rapport à la décision du gouvernement, parce que quand il était protégé par le gouvernement là-bas, il n'y a pas eu résurgence des insurrections comme nous le vivons.
Merci, cher confrère, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Roux qui a réalisé cette émission. Alain Goy était à la technique. Au micro, Kéline Couté, retrouvez-la sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon week-end et bon tour de programme sur la fréquence de la paix.